bas, nous avons demandé au Seigneur d'ouvrir nos cœurs, nos intelligences, et au Saint-Esprit de passer dans nos rangs pour que nous comprenions bien ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Que ferions-nous, Seigneur, si nous n'avions pas le secours de ton Saint-Esprit? On ne comprendrait que la superficie des mots, alors que par ton Saint-Esprit, Seigneur, les mots, tu veux les faire descendre jusqu'au très fond de nous-mêmes, afin que nous en vivions, afin que nous y mettions en pratique, Seigneur, cette parole de vie que tu as donnée à tes enfants de génération en génération. Alors oui, Seigneur, viens nourrir nos cœurs maintenant. Viens enflammer nos cœurs de ce feu, Seigneur, que tu veux voir brûler en nous. Et que les paroles qui vont être dites, Seigneur, soient dites sous l'onction. De la part de ceux qui parlent, de celui qui parle et de la part de ceux qui entendent. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Et nous savons que tu es présent. Alors débouche nos oreilles, ouvre notre intelligence. Tu es vivant, Seigneur, et nous voulons ta vie. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de la prière. Alors, d'habitude, je lis des textes, parce qu'ils sont dans plusieurs versets. Cette fois-ci, vous entendrez trois versets de la Bible, dans Luc 21, dans 1 Thessaloniciens 5 et dans Romains 15. Mais ils sont tellement courts que je les lirai à travers les mots que le Seigneur m'a permis d'écrire. La prière, c'est un thème qui est souvent abordé, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Les textes de la Première Alliance nous rapportent que des hommes comme Abraham, Moïse ou David, et tant de prophètes aussi, ont été de grands intercesseurs et ont vu de grandes choses se produire suite à leur prière. Songeons, pour ne donner qu'un exemple, à Élie, qui avait annoncé au roi Achab qu'il ne pleuvrait pas pendant 3 ans et demi. On voit ça dans un roi 7. Et c'est sur sa prière, la prière d'Élie, que la pluie est revenue après ces 3 ans et demi de sécheresse. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus passer des nuits entières en prière. Nous le voyons aussi exhorter ses disciples à, je cite, et c'est le premier texte, « Veillez et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. » Luc 21, 36. Et dans la parabole du juge inique, en Luc 18, que nous dit le premier verset? Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Dans les Épîtres, Paul nous exhorte aussi à prier sans cesse, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Frères et sœurs, ne doutons pas un instant que l'apôtre a appliqué pour lui-même les exhortations qu'il adressait à ses correspondants. Au début de presque toutes les lettres qu'il adresse aux églises, il fait mention des prières qu'il adresse à Dieu. Je prends juste un exemple. Nous, c'est-à-dire Paul, Sylvain et Timothée, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Que faisons-nous de ces exhortations de Jésus et de Paul? sont-elles devenues une sorte de rengaine à laquelle nous ne prêtons plus attention parce que nous les avons entendues si souvent? Je pense à ce chant. Réjouissez-vous et priez sans cesse. Qu'est-ce qu'on en fait de ces paroles qui reprennent les exhortations de Christ? Jésus et Paul auraient-ils parlé pour ne rien dire? Juste pour le plaisir de s'entendre parler, un peu comme cela nous arrive si souvent? Je suis certain qu'aucun d'entre vous qui êtes ici ce matin pense cela. C'est donc que ces exhortations ont un sens et qu'il est important de les comprendre et surtout de les mettre en pratique. Le célèbre évangéliste méthodiste John Wesley, que nous connaissons particulièrement puisque je crois bien que notre église était méthodiste avant d'entrer dans l'église réformée de France, a écrit la chose suivante. Écoutez bien. Donnez-moi une centaine de prédicateurs qui ne craignent rien d'autre que le péché et qui n'ont pas d'autre désir que Jésus seul, et je ne me ferai pas de soucis au sujet de leurs diplômes, s'ils en ont, si c'est des grands, des petits diplômes. Ces quelques-uns seuls feront trembler les portes de l'enfer et établiront le royaume des cieux sur terre. Et il ajoute, Dieu ne fait rien qu'en réponse à la prière. Dieu ne fait rien qu'en réponse à la prière. Si nous étions vraiment persuadés de cela, nous commencerions à comprendre pourquoi Jésus nous a demandé de veiller et de prier en tout temps. Et nous accorderions plus d'importance à nos prières personnelles et au temps que nous y consacrons. Nous comprendrions mieux qu'en quelques décennies après la résurrection de Jésus, l'Évangile se soit répandu dans tout le bassin méditerranéen, malgré les horribles persécutions auxquelles ont été confrontés ceux qui allaient devenir chrétiens. John Wesley, il affirmait qu'il suffirait de 100 prédicateurs consacrés à la prière et remplis du Saint-Esprit pour établir le royaume des cieux sur terre. Combien étaient-ils ? Ces hommes entièrement consacrés à Dieu et à la prière qui ont allumé le feu de l'Esprit dans tout le bassin méditerranéen au cours du premier siècle de notre ère. 12. 13 avec Paul, plus quelques compagnons de Paul. Étaient-ils de meilleurs prédicateurs que la majorité des prêtres et des pasteurs de notre siècle? Était-il mieux formé théologiquement? Les gens de l'époque étaient-ils plus disposés à recevoir l'Évangile que nos contemporains? Non. Alors, pourquoi l'Évangile est-il réduit à la portion congrue? En Europe, dans notre pays, dans notre ville. Qu'avait-il de plus que nous, les premiers disciples du Christ? La réponse est très simple. Ils étaient totalement consacrés à Dieu et à la prière. Aujourd'hui encore, même en France, on assiste à des réveils avec un grand R majuscule dans certaines communautés lorsque les pasteurs entièrement consacrés à Dieu laissent à l'Esprit Saint toute la liberté d'agir avec puissance. Ils reçoivent l'onction divine capable de chambouler les cœurs des chrétiens installés dans la léthargie spirituelle. Edward Bounce, un pasteur américain du début du siècle dernier, écrit ceci. L'onction n'est pas un don confié pour toujours. C'est un don conditionnel. Et sa présence est perpétuée et augmentée par le même procédé qu'il a obtenu pour la première fois. Quel est ce procédé ? D'incessantes prières à Dieu, des désirs passionnés pour la ressemblance à Christ, en l'estimant, en le recherchant, avec une ardeur infatigable, en regardant toute chose comme une perte ou un échec sans cette ardeur. D'où et comment vient cette onction ? Directement de Dieu. En réponse à la prière, les cœurs remplis de l'esprit de prière sont les seuls à pouvoir être remplis de cette huile sainte. Les lèvres qui prient sont les seuls à pouvoir être ointes de cette onction divine. La prière, beaucoup de prières, tel est le prix d'une parole sainte. La prière, beaucoup de prières, telle est la seule et unique condition pour garder cette onction. Sans cette incessante prière, l'onction ne vient jamais sur le prédicateur. Sans la persévérance dans la prière, l'onction, comme la manne gardée trop longtemps par le peuple dans le désert, fera naître des vers qui la dévoreront. Souvenez, c'est dans Exode 16 qu'on voit ça, où la manne avait pourri. Parce que Dieu avait dit, vous n'en récolterez pas plus que ce que vous pouvez en manger. Mais bien sûr, le peuple n'avait pas oublié. Il faut une révélation de l'esprit pour comprendre que la prière est la chose la plus importante qui soit, la plus essentielle dans notre relation avec Dieu. Tous nos actes, en tant que chrétiens, découlent de notre vie de prière. Une vie de prière rabougrie donnera toujours une foi rabougrie et des fruits spirituels rabougris. Un prêtre, un pasteur, un prédicateur qui ne se consacre pas à la prière ne verra que peu de fruits dans son ministère. C'est l'onction du Saint-Esprit qui rend vivante la vérité révélée de Dieu. Elle lui donne de communiquer la vie. Même la vérité évangélique apportée sans cette onction, elle est légère et n'insuffle pas la vie. Le sermon peut abonder en vérité, il peut être chargé de pensée, il peut briller par sa clarté, il peut frapper par sa logique, il peut être puissant d'enthousiasme. Mais sans cette onction, les cœurs endurcis ne seront pas touchés par la vérité. Les pasteurs, les paroissiens, les conseillers presbytéraux, les prédicateurs devraient veiller à la prier, à la priorité de leur relation avec Dieu, c'est-à-dire devraient veiller à la prière. On constate souvent que l'intendance prend le pas sur la prière. C'est justement ce que ne voulaient pas dès le début les responsables de la première Église. On voit cela en Actes 6, où les 12 disciples nomment des diacres pour les soulager des tâches matérielles, afin que quoi ? Afin qu'ils aient plus de temps à consacrer à ma prière. En effet, les appels et les buts des apôtres étaient de mettre l'Église en prière. Bien sûr, ils n'étaient pas ignorants de la grâce reçue par celui qui donne avec joie. Ils n'ignoraient pas la place que l'activité religieuse et le travail occupent dans la vie chrétienne. Mais pas une de ces choses, ni même toutes réunies, ne pouvait à leurs yeux être comparée à la prière, en nécessité, en importance et en urgence. Est-ce qu'un jour nous arriverons à comprendre cela ? Il existe un danger qui guette les chrétiens, celui de percevoir la prière comme un devoir. Dans ce cas, cela devient un travail épuisant, que l'on ne fait qu'à contre-cœur ou sans enthousiasme. En effet, prier véritablement demande beaucoup d'attention et de temps, chose auxquelles notre vieille nature ne trouve pas beaucoup d'intérêt. Le risque, c'est de nous habituer à nos prières de mendiants, jusqu'au point où cela nous semble bon et normal. C'est une forme décente qui calme notre conscience. Nous pouvons écourter nos prières et ne pas réaliser le péril jusqu'au moment où les fondations seront détruites. Des prières rapides produisent une foi faible, des convictions faibles, une piété douteuse. Être petit avec Dieu, c'est être petit pour Dieu. Raccourcir la prière donne aussi un caractère religieux, rabougri, mesquin, négligent. Il faut du temps pour que le souffle de Dieu pénètre dans notre esprit. La brièveté de nos prières coupe le canal qui nous relie à lui. Cela prend du temps dans le lieu secret pour recevoir une pleine révélation de Dieu. Nous admettons unanimement qu'il faut du temps, beaucoup de temps en tête à tête, pour apprendre à connaître quelqu'un, que ce soit son futur conjoint ou un ami. C'est exactement la même chose avec Dieu. Et pourtant, nous pratiquons souvent ce qu'on appelle maintenant le speed dating, c'est-à-dire connaître les gens, apprendre à les connaître en l'espace de 4 ou 5 minutes. C'est très à la mode. Nous pratiquons souvent le speed dating dans nos prières, parce que nous trouvons toujours une chose plus urgente à faire. Nous repoussons souvent la prière à plus tard, un plus tard qui se traduit souvent par une prière faite à la sauvette, avant de se précipiter pour enfin faire quelque chose d'important. Il nous faut vraiment une révélation pour comprendre que l'important, ce qui est véritablement important, c'est la prière. Lorsque nous aurons compris cela, nous bousculerons nos calendriers, nous modifierons notre gestion du temps pour consacrer à la prière la place qui lui revient, c'est-à-dire la priorité. Si Jésus nous exhorte à prier en tout temps, c'est que Dieu nous donne un rendez-vous permanent pour s'entretenir avec lui, avec nous. Je dis bien pour s'entretenir avec nous. On a trop tendance à penser que prier, c'est parler à Dieu. C'est vrai aussi. Mais prier, c'est aussi écouter Dieu nous parler. Je dirais même que c'est le plus important. Ces moments d'intimité avec Dieu sont faits pour que nous puissions lui offrir notre cœur, lui apporter nos joies, nos peines, notre reconnaissance, notre joie de lui appartenir, notre confiance en lui dans toutes les circonstances de notre vie, mais aussi nos peurs, nos doutes, nos questions, nos révoltes, nos incompréhensions, nos faiblesses, nos péchés. Dieu peut tout entendre. Il veut nous apprendre à être transparents devant lui, à lui ouvrir totalement notre cœur, à ne pas lui cacher ce dont nous avons honte, mais au contraire à le placer dans sa lumière guérissante en regardant Christ cloué sur la croix, Christ qui a pris sur lui nos péchés. Nous avons souvent peur de confesser à Dieu nos fautes et nos péchés, parce que nous avons peur qu'il nous juge, mais c'est une erreur monumentale. Dieu ne nous juge jamais. Pourquoi ? Pour une raison bien simple. Il nous aime. Mais il ne veut pas non plus nous laisser dans notre péché. Pourquoi ? Pour la même raison. Parce qu'il nous aime. La prière a aussi une autre dimension tout aussi importante, tout aussi indispensable pour le réveil des églises. À ce propos, je vous lis ce que Paul écrivait aux Romains à la fin de son épître. Voilà ce qu'il dit. « Je vous exhorte par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Romains 15, 30. Et on voit qu'à trois autres occasions, dans Éphésiens 6, dans Colossiens 4, dans 1 Thessaloniciens 5, Paul adresse la même demande insistante aux églises. Et à ce propos, Edward Bones écrit « L'évangile ne peut pas être multiplié par un messager qui ne sait pas intercéder. Les dons, les talents, l'éloquence, les appels de Dieu même ne peuvent pas remplacer la prière. Paul est une illustration frappante de ces vérités. En effet, si quelqu'un pouvait faire progresser l'Évangile par le moyen de sa valeur personnelle, de sa puissance intellectuelle, de sa culture, de toutes les grâces personnelles reçues, de l'appel de Dieu à l'apostolat, c'était bien Paul. Et cependant, il est un vivant exemple du fait qu'un serviteur doit être un homme littéralement donné à la prière. Tout apôtre qu'il était, Paul montre par-dessus tout que le plein succès de son ministère dépendait de quoi ? Dépendait de la prière des croyants. Il les supplie de prier pour lui. Il savait que dans le royaume spirituel, comme partout ailleurs, l'union fait la force. Si Paul dépendait tellement des prières des enfants de Dieu pour donner le succès à son ministère, pas le succès personnel, vous avez bien compris, le succès du royaume de Dieu, Si Paul dépendait tellement des prières des enfants de Dieu pour donner le succès à son ministère, combien n'est-il pas plus nécessaire aujourd'hui encore que les chrétiens nés de nouveau concentrent leurs intercessions sur ceux à qui le Seigneur a confié de répandre sa parole. Frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse vraiment la grâce de comprendre qu'il n'y a rien de plus important que la prière, que rien ne peut se faire sans elle. Que chacun de nous ait soif pas seulement la soif de l'après-midi, la soif de celui qui marche dans le désert sous 40 degrés à l'ombre et qui n'a pas bu. C'est ça la soif. Que chacun de nous ait soif de recevoir un esprit de prière qui le conduira à mettre à part le meilleur moment de ses journées et à rechercher la volonté de Dieu pour lui-même et pour notre Église. Et prions enfin et aussi avec foi et avec persévérance pour ceux qui nous annoncent l'Évangile chaque dimanche, afin que vraiment ils parlent sous l'onction de Dieu. Oui, Seigneur, donne-nous soif. Une vraie soif, Seigneur, de ces rencontres avec toi dans la prière. Donne-nous soif, Seigneur, de t'entendre nous parler. Parce que toi seul peux conduire notre vie pour la vie que tu désires pour nous. Parce que toi seul peux conduire notre Église pour la vie que tu désires pour elle. Oui, Seigneur, s'il te plaît. Grave les paroles qui nous ont peut-être touchés. Grave-les dans nos cœurs pour que nous les mettions en pratique, Seigneur. Chaque jour de notre vie.